Même audio. Vous ne l'avez pas vu? Vous pouvez l'entendre.
Bonjour, merci au public présent. Bienvenue à ces 10e rencontres du papier et du livre. 10e édition, c'est pas mal, sur ce bâtiment un peu historique. Et alors cette année, donc la thématique, c'est autour de l'eau vive, avec un petit jeu de mots, hein, eau vive, eau vie. Donc là, nous recevons Iris Dion, qui est donc l'autrice, la co-autrice d'Horizon Climatique, rencontre avec 9 scientifiques du GIEC. Alors, c'est une BD reportage, BD témoignage, enfin, on verra comment on appelle tout ça. Donc, c'est un énorme travail pour évoquer donc, le changement climatique, également la courbe des émotions. Hein, on va en parler. Donc on dit Iris Amata, Iris...
bonjour.
Iris Dion, on va dire.
Allez, on m'appelle Iris, en
Iris,
général.
Iris, tout simplement. Et alors, donc, Iris... qui est chercheuse, hein, qui est docteur en sciences du climat et de l'atmosphère au Centre de recherche sur la biodiversité de l'environnement. Donc c'est CNRS, c'est quel organisme ?
C'est un laboratoire rattaché au CNRS.
C'est CNRS, très bien. Donc là, il s'agit de votre premier livre, donc c'est presque un coup de maître, hein, pour quelqu'un qui, a priori, n'est pas du métier, c'est-à-dire de l'édition. Et évidemment, donc les textes, toute la partie scientifique, évidemment, c'est vous, mais vous avez un compère qui s'appelle Xavier Henrion, qui est un très bon dessinateur qui, je crois, est installé en Suisse, et donc qui fait passer toutes ces idées... plutôt complexe, hein, déjà pour parler du GIEC, qu'est-ce que le GIEC, on va l'évoquer, voilà. Donc peut-être nous expliquer, Iris, comment est venue cette idée, bon, en étant, en travaillant sur toutes ces problématiques, comment est venue cette idée de ce livre assez monumental qui, bon voilà, il est très accessible, très pédagogique, mais enfin par moments il faut s'accrocher parce que les problématiques elles sont complexes, et il y a 9 interlocuteurs, donc des spécialistes du GIEC. Alors peut-être donc 2 questions en une: qu'est-ce que le GIEC, et également donc comment cette idée du livre est arrivée?
Merci. Merci pour ces questions et la présentation. Et merci à tous et à toutes d'être présents. Je suis ravie d'avoir été invitée à cet événement.
Plaisir partagé.
Du coup, pour commencer, le GIEC, c'est vrai que c'est toujours bien de faire un petit rappel. Du coup, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Donc, en fait... pour tout vous dire, aujourd'hui, il y a de plus en plus de publications scientifiques qui sont publiées par année. Il y en a environ 40 000 publications scientifiques par année. Donc autant dire que ni vous, ni moi, ni aucun décideur n'est capable de lire toutes ces publications scientifiques, de les comprendre et puis d'agir en conséquence. Et c'est pour ces raisons que le GIEC, le groupe, a été créé. C'est un groupe qui réunit plus de 800 scientifiques du monde entier. Donc ça regroupe 195 États. Et ce groupe a pour mission de faire une synthèse de toutes ces connaissances scientifiques, technologiques et socio-économiques en lien avec le changement climatique dans des rapports qui sont publiés tous les 3 à 5 ans.
Alors ça dépend des Nations Unies et de l'ONU.
Tout à fait. Et du coup, ça s'est publié depuis 1988, donc depuis plus de 30 ans. Et donc il y a des rapports... globaux sur les connaissances. En gros, c'est l'état des connaissances actuelles sur le changement climatique. Ce que j'aime bien rappeler, c'est que globalement, une des conclusions majeures du GIEC, c'est de dire qu'aujourd'hui, 100% du réchauffement climatique est dû aux activités humaines. Et ça, on le sait de façon sans équivoque. On n'a plus de doute sur ce résultat.
100% ou 99,9%?
Non, on n'a plus de doute sur le fait que l'augmentation des températures actuelles et durant la dernière décennie est due aux activités humaines. Et aussi, ce que j'aime bien rappeler, et c'est pour ça aussi que j'ai réalisé cet ouvrage, c'est que le GIEC ne se contente pas de synthétiser les connaissances sur le changement climatique, mais il crée aussi un lien, en fait, avec la société, du fait qu'il crée ses rapports. C'est une manière de dialoguer avec la société pour que la société et les décideurs et les citoyens puissent s'emparer de ces connaissances, les comprendre, les partager et pouvoir agir individuellement et collectivement en conséquence. Et... Et c'est pour ça que j'ai cherché notamment à créer un ouvrage rendant un tout petit peu plus accessible ces rapports qui en fait sont des rapports qui font 4000 pages en anglais. Bien sûr, ce sont des gros rapports conséquents, mais il existe aussi des rapports qu'on appelle des rapports pour décideurs et donc ce sont des résumés, des synthèses qui là sont accessibles en différentes langues.
Pour nos politiques, pour les aider à décider.
Mais pas uniquement pour eux, pour nous, nous tous en fait, beaucoup de personnes s'emparent aussi de ces rapports pour les lire, mais ça reste quand même conséquent, il faut se plonger dedans. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi cet outil qui est peut-être plus accessible au grand public. Et aussi une autre raison, c'est que du coup, moi j'ai étudié le changement climatique pendant mes études, j'ai fait une thèse sur ces thématiques-là, et dans mon laboratoire j'étais touchée aussi par les témoignages des collègues, de certains collègues qui étaient auteurs du GIEC, et puis parfois on est révolté, on discute, on est plongé dans ces thématiques quotidiennement et on peut vivre des émotions assez fortes.
Oui, ça vous affecte moralement.
J'étais tout à fait affectée par ça. Et c'était important pour moi de partager ce qu'on vit aussi. Et en parallèle de ça, j'ai observé que quand je sortais de ma bulle de chercheur et de chercheuse, finalement, peu de personnes autour de moi connaissaient le GIEC ou alors avec une vague idée de ce que c'est. Dans l'exemple, je donne un exemple où le personnage de Iris, parce qu'effectivement, il y a deux personnages.
Le personnage Iris et Xavier.
Iris et Xavier, tout à fait.
Qui n'est pas le dessinateur.
Hein. Non, on pourra en reparler. Et du coup, le personnage de Iris est dans une voiture en covoiturage. Ça m'arrive souvent dans la réalité en covoiturage qu'on me demande « qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Je réponds « j'étudie le climat ». Et là, on me dit « alors, est-ce que c'est vrai le changement climatique ?» Et donc, le personnage de Iris répond apparemment, d'après le GIEC, on ne se pose plus la question. Et puis, ce monsieur répond « ah, mais monsieur le GIEC, je ne sais pas qui c'est ». Et en fait, ça, c'est un exemple qui m'arrive souvent. Alors, pas forcément cette blague, mais qu'on me dise « est-ce que le changement climatique, ça existe ?» Qu'est-ce que c'est le GIEC ? Et plein d'autres questions sur ces thématiques-là. Et du coup, c'est ça qui m'a vraiment motivée à vouloir partager le contenu des rapports du GIEC.
Alors justement, donc là, on a affaire à 9 scientifiques. Alors c'est souvent des gens très compétents, des sommités. Alors on commence avec quand même celle qui est peut-être la plus connue, en tout cas, quand on s'y intéresse, hein, parce qu'on a beau dire changement climatique, je ne suis pas au courant. Enfin, quand même, les médias, je ne vais pas dire mainstream, enfin, les médias sérieux, je veux dire, on y a droit quand même. Donc, c'est quand même surprenant de dire les gens, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai ? C'est quand même surprenant, voilà. Ça, c'est peut-être un petit commentaire perso. Alors, on démarre au niveau des... il y a le constat au début, et puis la première intervenante, c'est Valérie Masson-Delmotte, qui s'est fait connaître un peu, on l'a vu à la télévision, je vois deux décideurs qui hochent la tête, mais est-ce que tout le monde connaît cette dame ? On l'a beaucoup vue pendant, notamment, elle était intervenue à l'Élysée pour des petits colloques, pour apparemment former les ministres, qui apparemment n'étaient pas tous très compétents. Voilà, donc c'est peut-être la personne la plus connue, avec Jean Jouzel, hein, qui un petit peu un vétéran du GIEC, et qui conclut l'ouvrage. Et donc, pourquoi avoir choisi, 9 scientifiques, je ne sais pas pourquoi, mais pourquoi cela en particulier ?
Et en effet, Valérie Masson-Delmotte est aussi, en plus d'être coprésidente du premier groupe de travail du GIEC, elle est aussi membre du Haut Conseil pour le Climat. J'ai choisi, en effet, certains auteurs qui ont une certaine notoriété publique. Mais pas uniquement, il y a aussi des auteurs avec qui je travaille dans mon laboratoire et avec qui j'ai eu des échanges. Pourquoi avoir choisi en fait ces auteurs ? J'ai cherché à construire la structure de l'ouvrage de sorte qu'elle soit similaire à la structure des rapports du GIEC. C'est-à-dire que le GIEC est divisé en trois grands groupes de travail. Et donc les premiers auteurs du GIEC qui vont être rencontrés dans l'ouvrage. Donc en fait, pour résumer rapidement, dans l'ouvrage, il y a deux personnages, Iris et Xavier, qui vont à la rencontre un par un des auteurs du GIEC. Et donc à chaque rencontre, il y a une thématique qui est abordée et...
Donc Iris, on comprend que c'est vous, mais plus ou moins, voilà. Et puis Xavier, alors c'est un copain rencontré dans le quartier qui vend des glaces, qui a l'air de ça intéresse, il comprend pas trop, il est très curieux. Et puis on va suivre un peu son évolution, c'est ça.
C'est ça, on va suivre son évolution. Il s'y connaît pas, il a encore beaucoup de doutes, il s'y connaît pas vraiment sur le changement climatique. Et donc Iris va lui permettre d'accéder au monde de la recherche pour faire ses rencontres. Et donc les premiers auteurs de la BD qui vont être rencontrés vont être des auteurs qui vont venir du premier grand groupe de travail du GIEC qui porte sur la compréhension du changement climatique. Les auteurs suivants vont venir du deuxième grand groupe de travail plus, qui porte plus sur les risques, les vulnérabilités, les risques des changements et les moyens d'adaptation à ces changements. Et les derniers auteurs rencontrés viennent du dernier grand groupe de travail qui se focalise plus sur les solutions, ce qu'on appelle les solutions, et les moyens d'atténuation des dommages induits par ces changements. Et en parallèle de... voilà, ça explique un peu pourquoi j'ai choisi ces auteurs. Bon, j'ai aussi choisi, comme je vous disais, il y a plus de 800 scientifiques. J'ai choisi aussi des auteurs qui...
plutôt français.
Qui étaient francophones. Certains d'entre eux, c'était vraiment... Je suis allée dans le bureau d'à côté et puis j'ai parlé à Hervé Douville de mon projet et il m'a accueillie avec tellement d'enthousiasme que de notre discussion, j'ai un peu créé aussi ce projet. Et puis,
Christophe Cassou, qui était à Météo France, ici à Toulouse.
Pareil.
Il était là, je crois.
Oui, voilà.
Il est parti à Paris.
Et après, j'ai cherché de bouche à oreille. Certains auteurs m'ont conseillé d'autres. Et j'ai cherché ainsi de suite à trouver des auteurs de chacun des groupes de travail et pour parler des thématiques qui me paraissaient les plus importantes. Alors, bien sûr qu'on ne parle pas de tout ce qu'il y a dans les contenus des rapports du GIEC et de tous les rapports du GIEC, mais ce qui me paraissait essentiel à prendre en main pour déjà engendrer des discussions qui font bouger les choses.
Oui. Alors chaque spécialiste, chaque fois qu'il prend la parole, il y a une couleur particulière, il y a une thématique avec un titre. Là, par exemple, c'est Hervé Douville, chapitre 4, c'est la colère. Tout comme auparavant, c'était le déni avec Roland Séférian. Bon, évidemment, ce n'est pas des gens qu'on connaît, mais... Bon, qui ont quand même une autorité scientifique importante. Et donc, à chaque thématique, donc, il y a une couleur, hein, c'est ce qu'on s'était dit. Et puis, il y a une progression, hein, jusqu'à arriver... Alors, il y a le déni, il y a la colère, enfin, je ne les ai pas tous notés, hein, il y en a 9. Et pour arriver jusqu'à la décision et aux solutions.
Oui, c'est ça. En fait, en parallèle, du coup, de la structure plutôt académique, qui est la même que celle des rapports du GIEC, j'ai cherché aussi à suivre une structure qui est utilisée en éco-psychologie, en fait, même en psychologie en général, mais en éco-psychologie, notamment dans les travaux de Pablo Servigne ou de Johanna Massi, qui est la structure de la courbe du deuil. Je peux vous montrer là, c'est à la toute fin de l'ouvrage. Et donc, c'est une courbe qui décrit l'état émotionnel d'une personne suite à un choc. Donc, par exemple, on apprend qu'il y a un changement climatique, on vit un choc, et généralement, ce qu'on peut vivre comme émotion qui suit ce choc, c'est une phase de déni, on ne veut pas y croire. Puis après, on rentre dans une phase de colère, on est vraiment en colère que ça arrive. Puis ensuite, une phase de négociation, c'est-à-dire qu'on réalise que tout est cassé et on va essayer de recoller les morceaux, de trouver des petites solutions. Et généralement, ce qui suit à ça, c'est qu'on rentre dans une phase d'anxiété ou alors de dépression. On emploie aussi aujourd'hui le terme de solastalgie pour parler d'éco-anxiété. Et pour moi, c'était très important d'aborder toutes ces thématiques-là, toutes ces émotions qu'on peut traverser, notamment que, comme je vous le disais au début, dans mon milieu, à travailler quotidiennement sur ces questions-là, parfois, on passe par toutes ces émotions, vraiment du déni, ça m'arrive, de la colère, de l'anxiété, mais aussi toutes des émotions positives, donc je vais parler après. Et donc, c'était important pour moi de partager ça, de partager comment ces chercheurs les vivent, comment nous, on peut faire, quelles sont les clés quand on est dans la phase un peu anxiogène, quelles sont les clés pour passer vite cette phase, aller au-delà. Et donc, j'ai vraiment cherché à en parler et surtout à montrer que la phase d'après, cette phase anxiogène, c'est la phase d'acceptation, puis la phase d'expérimentation, on va essayer différents modes de vie, puis de prise de décision, tel mode de vie est bien, je vais l'intégrer, je vais changer mes pratiques de telle manière, et enfin d'intégration de ce mode de vie dans notre quotidien. Et tout ça pour dire que, en fait, cette courbe, elle décroît, puis elle réaugmente pour montrer qu'en fait une émotion c'est important de comprendre, d'accepter ses émotions et puis surtout elle nous met dans l'action. Et c'est important de ne pas rester dans cette phase un peu anxiogène qui pourrait au contraire nous paralyser et nous dire c'est fini, il n'y a rien à faire et nous laisser au fin fond de notre lit et en fait qui n'aide pas du tout à avancer alors que quand on passe dans les phases suivantes d'acceptation, prise d'expérimentation, on est dans le mouvement, on a envie de se mettre dans l'action, faire bouger les choses, faire passer les messages, changer nos pratiques et rentrer dans des actions collectives et ça c'est super important et je voulais vraiment finir l'ouvrage avec cette volonté d'aller vers l'avant de cette manière-là. Et, Et oui, et j'aime bien rappeler aussi que enfin, moi, ça, vraiment, ça me touche, cette histoire des émotions, que j'ai certains collègues qui sont partis 6 mois en arrêt de travail pour cause de solastalgie. Vraiment, ça arrive souvent. Il y a un exemple dans l'ouvrage où il y a un personnage qui n'ose pas regarder un avion dans le ciel parce qu'il se sent, il sent des palpitations. Ben, ça, c'est vraiment des témoignages qui me sont arrivés dans la vie. Des gens qui sont vraiment anxieux. Et du coup, c'était très important pour moi de donner des clés pour sortir de ça. Et avancer avec joie, avec force, et voilà.
Très bien. Alors, bon, évidemment, on évoque le constat, mais également, il y a tous les phénomènes physiques qui sont parfois complexes à comprendre, hein, notamment, bon, le cycle de l'eau, on le connaît, bon, ici, là, c'est l'eau vive, hein, la thématique, hein, depuis le verre d'eau, enfin, voilà, et puis après, il y a tous les phénomènes physiques avec les fameux gaz à effet de serre, hein, donc, bon, le CO2, on connaît, mais on connaît moins le méthane, on connaît moins, aidez-moi, celui qui, avec nos voitures, là, le NH, quelque chose, là.
Bon,
N2O. N2O, ouais, voilà. Bon, voilà, donc qui ont des cycles dans l'atmosphère qui sont beaucoup plus longs et qui sont d'autant plus dangereux. Voilà. Ouais. Donc voilà, donc il y a aussi bon, ces phénomènes physiques qui sont décrits, la glace de mer. Enfin bon, il y a pas mal de. Bon, voilà, sur le constat, mais également, bon, vous avez parlé des émotions, de la courbe des émotions, mais également, voilà, sur le fait que, bon, depuis la révolution industrielle, 1850, hein, combustion du charbon, puis du pétrole, du gaz, et puis tout le reste, voilà, la courbe du CO2, hein, et vraiment, c'est pratiquement une asymptote, hein, c'est-à-dire qu'elle monte, elle monte, elle monte, mais il n'y a pas que ça.
Oui, oui. Le toute la partie sur les émotions, c'est assez subtil quand même dans l'ouvrage. Le contenu, c'est vraiment le contenu scientifique. Voilà. Du coup, on aborde toute la compréhension du changement climatique. Et ce qu'on a cherché à faire, enfin, c'est très challengeant de vulgariser pour pas rentrer dans une sorte de manuel scolaire, mais en même temps rester dans un récit avec des personnages, une complicité entre les personnages, et en même temps apprendre des choses. Et surtout, ce qui est super important, c'est de comprendre, mais retenir l'information et être capable de la retranscrire, d'en parler. Et du coup, certains passages, on les a travaillés avec un chercheur en didactique, Valentin Marron, qu'on remercie beaucoup, qui pour notamment le passage du forçage radiatif, parce que c'est un concept compliqué mais important. Et donc l'idée, c'était vraiment de travailler avec des personnes pour qu'on puisse comprendre, retenir et être capable de retranscrire. Et notre espoir, c'est que... le lecteur, mais aussi le monde académique, des enseignants, on est beaucoup contactés par des enseignants aujourd'hui et enseignantes pour s'emparer de certaines planches pour essayer de retranscrire cette information scientifique.
Alors justement, le forçage, il en est beaucoup question dans toutes ces pages. Peut-être l'expliquer simplement, si c'est possible. C'est compliqué.
Non, c'est pas compliqué. Et d'ailleurs, je crois que j'aime bien dire cette anecdote-là. J'étais vraiment ravie parce que c'est un passage qu'on a passé du temps. Par rapport aux autres passages, on a vraiment passé du temps à travailler dessus. Et j'ai eu des retours positifs, et notamment un libraire, une fois, qui m'avait dit qu'il n'avait jamais entendu parler du forçage radiatif de sa vie. Et puis qui commence à m'expliquer ce qu'il a compris. Et là, je me suis dit, ça y est, on a réussi. Parce qu'il m'a expliqué ce qu'il a compris et l'importance du message. Je vous laisserai découvrir, je pense que c'est cette... Je vous laisserai le découvrir avec toutes les métaphores, parce qu'en fait j'ai peur que du coup de vous spoiler notre travail.
Et alors justement, à propos du déni, effectivement on a l'impression que ça monte un petit peu quand même, hein. Là il y a une phrase là, on vous voit vous balader dans les rues piétonnes de Toulouse, hein, il me semble, et il y a un petit chapitre là, enfin un petit passage que je vais lire, c'est: en partant, je me rappelais cette réflexion du philosophe Jean-Pierre Dupuis. Il y a une différence entre savoir et croire, et on préfère renoncer au fait que renoncer à nos croyances. Voilà, donc ça c'est le déni, et puis il y a la montée quand même du climato-scepticisme, avec bon, l'arrivée de Trump, évidemment, aux États-Unis, c'est vraiment pas une bonne nouvelle, hein, pour lutter contre un changement climatique, ou du moins commencer à prendre des mesures, hein, qui ne soient pas que cosmétiques. Voilà, donc sur cette histoire des faits, des croyances, du déni, des climato-scepticismes, qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que c'est dur de lutter contre ça.
Et oui, c'est un sujet... Là, on est en pleine COP29, vous le savez.
Dont on n'attend pas grand-chose, malheureusement, dans un pays...
C'est assez révoltant
pays pétrolier.
Gazier. Et en tout cas, moi, ça me touche beaucoup ce qui se passe donc, actuellement dans l'actualité. Ce sur quoi je m'accroche pour pas sombrer dans une sorte d'anxiété, en tout cas, c'est notamment d'écrire ce genre d'ouvrage, d'avoir ces échanges avec vous et de pouvoir voir qu'on peut communiquer, discuter et de voir que ça se propage. Et moi, je reçois de plus en plus de messages, du coup, de personnes que je connais pas qui remercient aussi pour le travail, qui me disent « Ah, bah, j'ai acheté en 15 exemplaires votre ouvrage et je l'ai offert à tous les gens autour de moi. » Non, mais c'est pour dire que ce qui est important, c'est que les gens en parlent et moi, ça me sort un peu de certaines actualités où il y a non pas du déni, mais carrément du détournement du climato-négationnisme. Mmh. Et ça, c'est dur de lutter contre, mais il faut.
Il faut quand même. Sur cette montée là du climato-scepticisme, sur le fait que c'est pas grave, ou alors les gens qui se sentent un petit peu attaqués, les personnes plus âgées, voilà, peut-être, est-ce que c'est abordé ça, entre les nouvelles générations et les anciennes générations, vous auriez pu faire ça, vous l'avez pas fait?
Bah, je pense qu'on vit tous les choses à des rythmes différents. C'est difficile, on va pas faire culpabiliser les gens. D'après moi, c'est important de ne pas se priver d'en discuter, de s'indigner en fait. C'est important de s'indigner et d'ouvrir les discussions sur ces sujets. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé cet outil, c'est que parfois on veut ouvrir des discussions, mais on n'a pas forcément. En tout cas, j'espère que certaines personnes pourront utiliser cet ouvrage pour affûter leur discours, pour pouvoir convaincre notamment contre tous les discours d'inaction, contre tous les discours qui justement font baisser les bras et qui disent que c'est trop tard ou ce genre de choses. Bah, j'espère que ça peut être utile comme outil pour lutter contre ça.
Alors justement, à titre individuel, qu'est-ce qu'on peut faire? Je veux dire, si on attend, si les politiques ne se bougent pas suffisamment, effectivement, il y a une montée du climato-scepticisme, Argentine avec Milei, Trump, n'en parlons pas, la Russie, voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut faire à la limite à titre individuel si les gouvernements ne vont pas assez loin?
Alors moi, je
changer ses pratiques, en entend souvent parler dans les médias.
Je ne sais pas si je suis là pour vous dire qu'est-ce qu'on peut faire. En tout cas, j'ai écrit cet ouvrage pour qu'on s'empare des connaissances. Ouais. Et d'après moi, c'est la première étape. Et il y a encore un très grand travail à faire là-dessus. Et comme je disais, quand on sort de notre bulle de convaincus, il y a énormément de personnes qui ne savent pas ce qu'est le GIEC, mais au-delà de ça, et qui ne savent pas le contenu des rapports du GIEC, qui ont encore beaucoup de doutes, voire des discours climato-négationnistes. Et la première étape, d'après moi, c'est vraiment de s'emparer de ces connaissances. En fait, on finit l'ouvrage avec une phrase d'Albert Einstein disant « Ceux qui ont le privilège de savoir ont le devoir d'agir ». Donc vraiment, la première étape, c'est déjà de savoir. Et donc, pour ça, de pouvoir communiquer et de construire ensemble des discussions, de construire ensemble des débats démocratiques pour trouver des solutions individuelles et surtout collectivement. Voilà ce que j'encourage à faire. Après, ce que j'encourage aussi à faire, c'est du coup se dire comment moi je peux changer mes pratiques quotidiennement à toutes les échelles, qu'il soit dans ma vie, que ce soit à la maison, au travail, dans mes activités, que ce soit aujourd'hui, cette semaine, à l'année, comment je peux changer mes pratiques dans tous les secteurs d'activité, comment je peux engendrer des discussions pour changer nos pratiques, pour tendre vers toujours plus déjà de sobriété et changer nos pratiques pour
que
ce soit...
Sobriété, on dirait que c'est un gros mot, ne serait-ce que peut-être de pas... La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne dépense pas ou qu'on ne produit pas, je veux dire. Donc on a l'impression que c'est un gros mot, là, le terme de sobriété. Des écologistes qui sont souvent accusés de tous les maux, en fait, c'est eux qui ont quand même sonné un petit peu, qui ont alerté les premiers, Et souvent, c'est eux qui se retrouvent sur le banc des accusés.
C'est effectivement un grand mot, mais qui est employé, je crois, par quasiment tous les auteurs que j'ai rencontrés.
Moi, il me semble aussi.
Et en fait, j'aime bien rappeler...
C'est un terme intéressant.
Ce graphique qui est présenté à la fin de l'ouvrage dans la partie de Henri Weissmann. Donc Henri Weissmann, c'est vraiment un chercheur qui fait le lien entre les scientifiques et les politiques et comment trouver des solutions à moyen et court terme. Et il rappelle ce graphique qui est en fait simplement la part... la part relative du pétrole dans le mix énergétique mondial, et il montre que la part relative en pourcentage, ça a baissé de 30 à 50%, mais par contre son volume absolu, en consommation absolue, a augmenté. Donc en fait, autant dire que on a l'impression en pourcentage que en pourcentage par rapport au reste, qu'on fait plus d'énergie renouvelable et moins de pétrole, mais en fait pas du tout, tout augmente.
Y compris le renouvelable, c'est-à-dire qu'on dépense de plus en plus d'énergie. Et on fait baisser la part du pétrole, mais en fait, l'énergie augmente quand même.
Oui, exactement. Et du coup, c'est en ça où ce terme de sobriété me paraît essentiel à rappeler, c'est qu'il faut absolument qu'on réalise qu'à chaque fois qu'on trouve une nouvelle technologie pour diminuer peut-être la part de gaz à effet de serre, en fait, pas du tout. Généralement, on s'en sert pour augmenter le nombre de jets privés. J'en sais rien, je dis ça comme ça, mais finalement, on s'en sert pour toujours augmenter notre consommation.
Ou les centres de stockage de données.
Exactement. Voilà.
Bon, merci. Alors, je dois souligner que pour une rencontre à 11h en tête-à-tête, oui, c'est le record, là, quand même. Ouais. Hein, parce que d'habitude, à 11h, avec le marché, donc... Merci d'être présent, aussi nombreuses et nombreux. Merci, et bravo à Iris.
Merci.
Voilà, donc la rencontre se poursuit, alors ici même ou sur le stand du chameau sauvage.
Même audio, une mémoire sonore.